Je comptais parler d'un film que j'ai vu tout récemment, et enfin, que j'ai revu, pour être plus précis, qui est un film comme une comédie qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang. C'est, comme on en parlait certains critiques, un mélange entre un film noir et un film entre copains. Donc on a les ingrédients du film noir avec une enquête, avec des détectives privés, des choses comme ça, des cadavres qui pleuvent, mais en même temps c'est drôle avec plein de gags et un jeu sur la narration. Parce que le personnage principal, le raté de base, le minable, qui volait des petites choses à New York, se retrouve propulsé pour passer une audition pour un film à Hollywood, et on le retrouve au milieu d'une fête, etc. Et s'improvise narrateur de l'histoire, et il nous fait voyager à travers le temps en nous racontant les divers épisodes et chaque fois en reprenant la narration. Donc on a un personnage qui nous raconte le film et qui fait des pauses, qui fait des retours, qui critique sa propre narration et qui critique le jeu des comédiens, etc. qu'on voit se dérouler. Donc c'est assez intéressant. Ça a été écrit par Shane Black, c'est le même qui avait fait L'Arme Fatale. Et là, c'était la première fois qu'il réalisait un film. Et comment dire, enfin, le gros intérêt de ce film, c'est justement ce mélange entre le sérieux et le comique. Et surtout, il se base, toute l'intrigue se base sur une série de romans des Johnny Gosshammer, qui sont un peu les SAS, enfin les SAS, ou alors les San Antonio des États-Unis, avec justement un personnage qui a toujours deux enquêtes, une complètement folle et une autre très sérieuse, et on découvre que ces deux enquêtes n'en font qu'une à la fin. Donc pour reprendre un peu l'histoire, on a notre personnage, le raté, qu'on retrouve à Hollywood, et qui va être mis entre les pattes d'un inspecteur privé professionnel gay, qu'on appelle Gay Paris, et pour lui apprendre le métier de détective privé pour pouvoir tourner un bout d'essai pour un film à Hollywood. Et là-bas, il va retrouver aussi, notre personnage principal va retrouver une amie d'enfance qui essaye de devenir actrice et qui est bercée de douces illusions. Et le problème, c'est qu'il va tomber sur de vrais cadavres. Ce qui va bien sûr être assez problématique et assez perturbant pour lui. Que lui, c'est une petite frappe et tout d'un coup, il va se retrouver mêlé à une affaire de meurtre. Et donc, il va s'improviser détective privé pour essayer de conquérir le cœur de sa belle. Alors oui, l'intrigue, c'est ça, c'est simple. Mais pour donner des exemples sur ces jeux, parce qu'il y a beaucoup de jeux linguistiques dans le film, alors il y a, comme c'est une petite frappe et autres, il ne maîtrise pas bien la langue et tout le monde lui donne des cours de langue puisqu'il utilise faux les adverbes. Par exemple, à un moment, on lui dit vas-y, il a tout raté, on lui dit vas-y, dors minablement. Et là, il dit non, dors minablement. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? Minablement, c'est un adverbe. Tu vas dormir de façon minable. Et il s'en va complètement dépité après cette leçon linguistique. Et à un autre moment, ils sont, lui et le détective gay, en train de tenir en joue un des méchants. Et pour essayer de le faire parler, le détective lui dit parle, ou sinon tu peux imaginer une balle dans ta tête. Et le méchant qui se voit plein de larmes sur lui dit mais je sais pas de quoi tu parles, et en plus c'est ambigu. Parce que c'est ambigu puisque là il doit imaginer dans sa tête une balle, alors est-ce qu'il doit imaginer la balle qui rentre dans sa tête ou est-ce qu'il doit imaginer dans sa tête une balle? Et là bien sûr le personnage principal soutient le méchant en disant non mais c'est vrai, c'est ambigu hein. Et tout le film se déroule avec justement des sortes de jeux linguistiques de ce genre-là. Et puis, est-ce qu'on peut tirer une conclusion de ce film? Je pense pas, à part que le film joue sur cette dimension entre la réalité et la fiction. Et tous les personnages, finalement, croient qu'ils sont comme pris dans un roman de Johnny Gosshammer, qui est un peu l'idole de la jeune fille, la nymphette. qui dont tombe amoureux le personnage principal, et le personnage principal lui aussi jouait à Johnny Gossamer quand il était gosse, et se retrouve comme ça à avoir deux enquêtes qui se mélangent, et ils croient qu'ils sont co comme dans un roman, et à la fin on apprend que non, et que la réalité n'est pas tout à fait la même chose que la fiction. Voilà quoi, on dirait que ce film n'est peut-être pas aussi porteur qu'on pourrait croire, hein, je peux pas en parler des heures. Un autre sujet que j'aime bien dont j'aime bien parler, c'est le monde des lettres, peut-être. Surtout d'un personnage qui toujours me fait parler des heures et des heures. C'est Jean d'Ormesson, ce grand Jean d'Ormesson. C'est un académicien, donc un immortel. Sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi il est académicien, parce que. On peut douter de son grand talent d'écrivain. Mais c'est une appréciation personnelle. Sa plus grande qualité, peut-être, c'est d'avoir fait entrer Marguerite Yourcenar dans les académiciens. C'est lui qui a défendu sa candidature. Et un autre de ses mérites, c'est peut-être quand on le voit sur une photo au milieu des d'autres académiciens, tous très sérieux, comme ça, tous en habit. Lui, il est encore jeune et il fait un grand pied de nez à l'objectif. Ce que j'ai trouvé assez drôle, d'ailleurs. Mais oui, c'est. C'est surprenant ces académiciens, puisque c'est un drôle de monde. Hein. Ils doivent représenter la langue française d'aujourd'hui, et en même temps, j'ai l'impression qu'ils ne la représentent pas du tout. La plupart sont de très bonnes familles, ils sont tous soit ancienne noblesse, ou alors très haute bourgeoisie, ou vraiment de la classe dominante, on va dire, de la haute société. Et un Jean d'Ormesson, lui, nous raconte les histoires du juif errant, etc. Et je ne sais pas s'il est vraiment au goût du jour, on va dire. Sinon, à côté de ça, on a des gens comme Eric Orsenna, un autre académicien, qui lui veut défendre la grammaire et nous fait des romans sur la grammaire. Alors on fait un voyage fantastique au monde de la grammaire et on va voir des gens qui nous parlent avec l'imparfait du subjonctif, c'est merveilleux, etc. Et tout d'un coup, on rencontre trois personnages. Oh là là, La Fontaine avec son corbeau et son renard. Après, on voit un autre type avec un bonnet d'aviateur et des lunettes d'aviateur assis à sa table et qui nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui est en train de d'apprivoiser un renard. Et après, on voit un autre type, alors lui, qui a un verre d'eau et une grappe de raisin et qui écrit de longues, longues, longues phrases. Comme ça, de longues, longues, longues phrases. Bien sûr, c'est Proust, hein. Alors voilà, et tout ce qu'on a appris, c'est que La Fontaine, lui, fait des histoires avec des corbeaux, des renards, qu'un autre apprivoise des renards et qu'un autre fait de longues phrases. Voilà. C'était bien, mais on a défendu le subjonctif de l'imparfait, et c'était l'important, puisque on est à l'Académie française. Alors tous ces bonhommes se voient publier avec leur nom, en grand, comme ça, et un petit filet en dessous qui aussi écrit de l'Académie française. C'est assez ronflant. Un peu se demander qui va rentrer à l'Académie française, hein, parce que chaque fois qu'un immortel meurt, on va dire que c'est paradoxal, mais chaque fois qu'un immortel meurt, il est remplacé, puisqu'ils sont immortels justement parce qu'ils sont toujours le même nombre, c'est parce qu'ils sont toujours remplacés. Alors, on a l'impression que les papables, on va dire, seraient aussi surprenants que ça puisse paraître Eric Emmanuel Schmitt, hein? Aussi un grand bonhomme des lettres, hein, lui. Et il nous sert des romans toujours de la même façon. On prend un sujet le plus casse-gueule possible et on en fait quelque chose de tout à fait politiquement correct. Alors on va parler sur le monde arabe alors qu'il y a des attentats. On va chercher des soufistes, etc. pour nous dire que, eh bien justement, pour nous apprendre de quelque chose qu'on n'était absolument pas conscient, hein, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas que des méchants de ce côté-là. Et puis après, on peut prendre un autre sujet, on fait la part de l'autre. Alors, on prend le sujet d'Hitler, et puis on imagine deux histoires de Hitler. La vraie, plus ou moins, où il est refusé à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, et une autre où, alors, par miracle, il entre à l'Académie des Beaux-Arts et il devient le grand chef de file du surréalisme, donc des arts dégénérés, etc. Donc, bien sûr, ça peut faire rire, mais en même temps, hein, est-ce que ça va révolutionner la littérature? On n'a pas vraiment l'impression. Oh, aussi, on écrit une évangile de Pilate. Hein. Alors, voilà. On prend toujours un sujet casse-gueule pour en faire quelque chose de bien. Enfin, de bien, façon de parler, bien compris, hein. Quelque chose de politiquement correct et d'accepté par la société. Alors oui, alors il y a des personnages comme ça qui tout d'un coup vont devenir les défenseurs de la langue française. Je sais pas si on est aussi proche de l'idéal qu'on voudrait défendre. Hein. Il y a quelqu'un que j'apprécie par contre dans les académiciens, c'est François Cheng. C'est un chinois qui écrit. Je préfère sa poésie, ses romans sont un peu moins bons. Mais sa poésie est très intéressante puisque il écrit en français. Il a une maîtrise parfaite du français et en même temps il apporte des images qui sont totalement inédites d'une certaine façon, vu que c'est des images, des comparaisons qui nous viennent plutôt de l'Orient, ce qui fait que c'est très agréable à lire et c'est très nouveau. Et ça, peut-être que, ah là, il y a quelque chose, il y a un travail sur la langue, sur la littérature en tant que telle, et pas simplement sur une sorte d'arcutis bizarres et bizarroïdes, et surtout qui sont plus vraiment à la page. Ah oui, il y en a un autre qui est incroyable. Bon, celui-là, je l'aime pas. C'est Michel Déon. Alors, non, mais c'est assez typique, il est très représentatif. Un de ses romans raconte l'histoire de différents personnages qui sont tous amis les uns avec les autres et qui se rencontrent sur une île grecque. Hein, comme ça, dans la maison de quelqu'un, d'un des personnages, et ils reviennent tous dans cette île grecque, ils ont quelques liens familiaux, etc. Mais ils sont tous de la noblesse, ou alors de la haute bourgeoisie, etc. Il y a une ancienne comtesse russe qui adore dire pipi, etc. Et une jeune, la jeune fille de la famille qui, elle, est arrivée avec deux copains. Et en fait, elles s'envoient l'un et l'autre, et ça fait les discussions des autres pendant le repas, etc. Et tout le jeu, c'est justement de ces gens qui se racontent un peu leur saga familiale sur cette petite île grecque. Et tout le monde parle la même langue, puisque la langue française, pour la magie du roman, la magie de la fiction, nous prévient l'auteur au début. Et après, les personnages comme ça, qui ne sont absolument pas représentatifs d'une société actuelle, qui justement, là peut-être c'est ça l'intérêt du livre, hein, on peut me contredire, mais c'est que justement il nous parle d'un temps qui n'existe plus, l'ancienne Russie, etc. Quand le pétrole allait bien, les manias du pétrole américain, etc. Enfin, c'est un peu ça le monde des lettres aujourd'hui. Et puis on peut voir aussi un tropisme dans le monde des lettres. Avant, il y a eu une grande période de la littérature suisse. En France, dans les années plutôt 70, etc., chez C. à le Goncourt, Corinne Aby reçoit la bourse Goncourt pour les nouvelles, etc. Enfin, on donne des prix aux Suisses, les Suisses sont appréciés. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, hein. C'est la croix et la bannière pour un auteur suisse d'être distribué en France, hein. Il y a les éditions Campiche qui arrivent plus ou moins bien à se faire distribuer, comme ça, mais bon, qui est aux éditions Campiche, on peut se demander aussi. J'ai quelques a priori avec Anne Cuneo, mais bon. Voilà, c'est toujours des romans très très longs avec une histoire assez intéressante, mais on apprend rien. Enfin, on apprend quelque chose, par exemple, comment est-ce qu'une police d'imprimerie est apparue, un caractère d'imprimerie est apparu, fantastique. Mais ça prend 500 pages. Dommage, peut-être. Enfin, eh ben, là aujourd'hui c'est fini, hein, les Suisses. Et maintenant c'est plutôt l'Outre-mer qui est porteur, hein, les littératures d'Outre-mer. Et puis on fait un petit détour par la Perse parce que Outre-mer, etc., c'est bien. Mais c'est pas la négritude. Il y a eu la négritude, il y a eu la Suisse, puis maintenant c'est l'Outre-mer, et aussi, c'est vrai, j'oublie, c'est le Maghreb, enfin les anciennes colonies françaises, hein. Donc on se rachète son passé en les mettant au goût du jour, justement, et c'est vrai qu'il y a une véritable volonté de se racheter. Une volonté de rachat. On l'a vu au cinéma, il y avait des films comme Indigène, etc., qui nous parlent justement des soldats français, mais maghrébins, etc., qui ont fait la Première Guerre mondiale, etc. Donc, oui, il y a une volonté de rachat, peut-être. Et aussi, on voit que, au fait, la littérature répond vraiment à des modes. Tout d'un coup, on va publier beaucoup de gens d'une région, et après, ils vont disparaître un peu dans une sorte de semi-oubli. Hein, voilà. La Suisse n'existe plus dans la littérature francophone. Il y a bientôt l'âge du Québec, hein, sans doute. Mais bon, ça on verra. Aussi, le monde des lettres, ce qui bouleverse le monde des lettres, c'est les prix littéraires. Alors ça aussi, c'est très drôle. Si on va à certains prix littéraires ou si on lit les rapports du jury, etc. Donc on demande toujours à des très vieux. les auteurs qui sont soi-disant confirmés, mais ils sont plus proches de la tombe que confirmés, de parler des réalisations de, par exemple, d'auteurs de moins de 20 ans, ou alors de jeunes auteurs, comme ça. On leur demande d'avoir un style alors qu'ils ont moins de 20 ans, ils doivent avoir un style qui est déjà fait, etc. Et on leur reproche souvent de copier la patte d'un auteur, ou etc. Donc, ils n'ont pas trouvé leur propre style. C'est intéressant comme remarque. Et aussi, ils ont des volontés, ils s'attendent à trouver certaines choses comme ça. Et souvent, ils reprochent une noirceur dans les textes, parce que c'est vrai, quand on est jeune, on dirait que ça fait très in et surtout très bien d'être un poète maudit. La vague poète maudit, bon, il y en a toujours un qui reçoit un prix parce que. Ben, c'est quand même dommage, il va tellement mal, il faudrait pas le priver d'un prix. Alors, il y en a toujours un qui reçoit un prix, mais en même temps, le jury dit: oui, mais quand même, vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, etc. Et vous n'écrivez que des trucs noirs sur la mort qui est proche, etc., sur le suicide. Sans doute qu'ils donnent des prix pour pas avoir les candidats suicidés, et puis surtout pour avoir toujours des candidats. Mais sinon, il y a aussi d'autres branches. Alors, ceux-là, ils sont très appréciés. Une des branches, c'est les auteurs qui fonctionnent comme des petits malins et qui jouent sur la langue, hein. Donc on est loin de Prévert, mais on essaie de se rapprocher de ce genre de choses. Et alors, ils jouent justement sur la langue et sur l'imparfait du subjonctif, hein. L'imparfait du subjonctif est une clé qui ouvre beaucoup de portes dans le monde des lettres, hein. Si vous maîtrisez ça, on dirait qu'on peut réussir sa vie avec l'imparfait du subjonctif, hein. C'est quand même impressionnant. Mais ça s'apprend pas à l'école, hein. Ça s'apprend ailleurs et après on a des emplois fautifs de ce subjonctif imparfait, c'est très, très, très rigolo. Alors, il y a ces petits malins de la langue comme ça. Et il y en a d'autres, alors ceux-là, ils sont fantastiques. Ceux-là, souvent, ils gagnent le premier prix. C'est ceux qui aiment tout dans la vie. La vie est merveilleuse, etc. Et ils nous parlent de rien, mais juste que c'est fantastique et que c'est merveilleux de vivre. Alors, ça, ils sont récompensés puisque justement, eux, au moins, ils sont pas noirs, etc. Mais personne ne se livre vraiment. Hein, c'est terrible. Si on lit la plupart des recueils, des prix, on en trouve peut-être un ou deux participants qui ont été primés, un ou deux textes qui valent vraiment la peine, où on se dit: ah, peut-être celui-ci on va le retrouver plus tard avec une bonne plume confirmée, etc. Mais souvent c'est plutôt comme tout le monde veut écrire aujourd'hui et ils ont écrit une chose une fois et puis. On dirait que ça fait in d'écrire, etc. Et puis, ah oui, c'est une autre branche dont j'oublie de parler. C'est ceux qui aiment tout ce qui est un peu côté noir et crasse de la littérature. Alors, ceux-là, ils sont fantastiques aussi. Parce qu'ils pensent que quelqu'un comme. Ça vient surtout je pense, d'une influence de la littérature américaine. Donc, quelqu'un comme Henry Miller, ou bien alors hein, Bukowski, etc., qui parle de sexe crûment, etc. Et, ils n'ont pas de bouteille et ne connaissent pas la littérature parce que ces jeunes qui le font souvent n'ont déjà pas vraiment lu Bukowski ou alors Miller, etc. Et ils mettent des gros mots, ils parlent de sexe, de nichons, etc. Et ils pensent qu'ils sont peut-être à la page, ils ont peut-être raison. Hein. Aujourd'hui, on nous montre du sexe partout, mais en même temps, il n'y a pas de profondeur et c'est juste presque de la pornographie en lettres comme ça. Et ça, c'est assez choquant. Et souvent ceux-là ne gagnent pas, hein. Mais c'est souvent ceux qui se lèvent à l'annonce des nominations, des nominés, hein, enfin des nommés, faudrait dire, puisqu'ils sont là: ah là là, c'est terrible, de toute façon je savais bien que je pouvais pas gagner, j'écris quelque chose qui va à l'encontre de leur morale, etc. Puis en plus c'est que des vieux schnocks, ceux qui jugent, etc. Enfin c'est assez drôle. Donc je conseille à tout le monde, tous ceux qui veulent voir la langue en action, d'aller voir les prix littéraires, c'est très intéressant. Moi j'ai suivi un peu ça puisque je fréquente une maison d'édition et que je suis un peu obligé de regarder ce qui se passe. Et oui, c'est très très drôle. On le voit dans les textes qu'on reçoit, les manuscrits, etc. Alors, il y a des choses, ouais. On voit vraiment tout le monde veut écrire, etc. Mais ils veulent être publiés. Mais en même temps, s'ils veulent vraiment s'exprimer, ils font un blog sur internet, et puis comme ça tout le monde va les lire, etc. Et ils seront plus diffusés que s'ils publient vraiment leur bouquin. Mais bon, ils n'ont pas la reconnaissance des pairs. Mais bon, pour mériter la reconnaissance des pairs, il faut faire quelque chose de bien, hein. Il suffit pas d'avoir un petit quelque chose à raconter, etc. Il faut un talent, une plume et un style. Et ça s'improvise pas, c'est des choses qui doivent se travailler, etc. Alors oui, c'est assez surprenant. Un manque de sincérité aussi. On veut se présenter, ceux qui écrivent comme ça, essaient de montrer une face de leur personnalité en cachant la plupart des autres, hein. Ils se livrent très peu. Ça ressemble un peu à ce qui se passe sur Internet, avec des choses comme Facebook, etc., où on organise la face qu'on veut présenter à son interlocuteur ou aux autres, où on organise les photos où on est souriant, où on est drôle, où on est. Hein? On fait jamais la gueule sur Facebook, c'est superbe. Et puis on n'a que des amis, puisqu'on met que ceux qu'on aime bien. Hein? Et tout le monde dit du bien de soi. Et on va bien comme ça, on se porte très bien, mais c'est toujours la même chose, et c'est la même chose qui se passe dans les textes. Parce que même si on parle de quelque chose de grave, etc., on veut le faire de façon à être. Il y a peu de remise en question de soi. Hein. L'auteur, le jeune auteur, quand il écrit, il se pose pas des questions sur lui-même ou sur pourquoi il écrit vraiment ça. Hein. C'est plutôt il l'écrit et s'il a vécu quelque chose de dramatique et qu'il veut en parler, ce sera vraiment comme une victime, etc. Et alors il va jouer ce rôle d'une malédiction qui lui est tombée dessus, comme ça. Et alors. Ça donne des choses, j'en cite un de mémoire, la mort elle est proche proche, la mort elle est proche. Et ben voilà, hein, comme on voit, hein, ça casse pas quatre pattes à un hanneton, hein. Puis on a envie de lui dire, ben pas de bol, hein, il y a la mauvaise fée qui s'est penchée sur ton berceau et voilà. Donc je sais pas si ça suffit.